8h29 minutes. Sur le point de commencer à grouiller dans la Ligue nationale de hockey.
Respire!
Ça s'en vient, Gilbert.
Respire!
On va aller voir justement un informateur s'il y a des informations de dernière minute pour nous. Marco D'Amico, salut!
Salut, Marco!
Mais ça va, Marco?
OK, on rentre de même, les gars.
Oui, monsieur.
Non, je pensais
qu'elle
allait avoir une pause. Là.
Non. Écoute, on l'a fait avant pour être sûr que tu aies tout ton temps.
La prochaine fois, tu vas avoir un thème spécial, Calvo.
Non. Spécial. Écoute, c'est bien correct. Bon matin.
Bonne
journée de date limite des transactions. Je sais que tout le monde veut savoir qu'est-ce que le Canadien de Montréal va faire en ce moment. Il y a plusieurs dossiers. On va mettre les choses au clair dès le début. Le Canadien détient seulement 1,5 million de dollars sous le cap salarial en ce moment, en termes d'espace au prorata. Okay.
C'est ça notre marge de manœuvre.
C'est ça la marge de manœuvre pour l'instant, jusqu'à temps que le Canadien fasse une transaction pour Patrick Laine.
Ouais, mais ça va-tu arriver, Marco, Colin Nebin?
Ben là, tu peux pas forcer une transaction quand il y a des meilleures options sur le marché. C'est ça le problème. J'ai toujours persisté. Si le Canadien allait échanger Patrick Laine, c'était durant la pause olympique ou c'était la dernière heure de la date limite des transactions.
Mm-hmm.
Parce que c'est au moment où tu commences à voir les gros morceaux. Puis on les a vus hier soir là, commencer à sortir. Connor Garland est parti, Michael Bunting est parti. On commence à voir d'autres alliés qui vont peut-être commencer à changer d'adresse. C'est le moment que ce marché-là commence à être de plus en plus mince. C'est là où ce que le monde va se tourner à leur plan C, D et E. Et c'est là où ce que figurent présentement des gars comme Patrick Laine, Evander Kane comme exemple. C'est ces gars-là qui vont être les fameux circle back. Donc, je ne m'attends pas à une grosse transaction du côté du Canadien tant si longtemps que Patrick Laine est échangé. Et même s'il est échangé, je m'attends pas à une transaction monstre. Le Canadien ne veut pas nécessairement se lancer dans certains derbies. Ça doit être une situation où ce qui peut prendre avantage de quoi que ce soit. Donc, que ça soit, exemple, que tout le monde se retire du derby Robert Thomas et que Doug Armstrong décide de réduire son prix, que ça soit les Flames de Calgary qui finalement décident de retenir du salaire sur Nazem Kadri. C'est des choses comme ça qui vont faire peut-être changer la donne parce que sinon, on regarde une amélioration de profondeur en ce moment.
OK, on revient à Kadri dans quelques secondes parce que je veux t'entendre là-dessus, mais on a vu Nick Dowd, puis moi, je me dis, OK, c'est-tu annonciateur qu'on va être vendeur du côté des Caps? Et finalement, peu après, on a fait Carlson. Les Kings ont échangé Fogel hier. Est-ce que ça veut dire que les Kings vont être vendeurs ou les Kings peuvent être encore agressifs? On vous laisse faire de l'espace. Comment tu vois la situation de ce côté-là?
Du côté des Kings, écoute, Andy Kopitar l'a dit hier soir, il veut voir Ken Holland faire des additions. C'est assez direct comme message à ton DG, ça. Fogel, il faut aussi penser, oui, il a retourné un deuxième choix. Excellente transaction côté valeur pour les Kings, parce que Fogel, il faut comprendre, était souvent rayé de la formation du côté des Kings. Je vois des minutes de quatrième trio, on cherchait à l'échanger depuis à peu près un mois. Donc, le fait qu'ils ont été capables d'aller chercher un deuxième choix et un swap de troisième choix avec les Sénateurs d'Ottawa est un excellent coup, selon moi. Et ça le donne encore plus de munitions pour aller chercher quelque chose de valeur. Et c'est un autre allié de moins du côté de Los Angeles.
Exact.
Là, ça fait trois alliés qui ont soustrait de la formation et un allié qui est rentré en Artemi Panarin. Donc, il y a de l'opportunité pour ajouter là. Et c'est certain que si tu es un club comme Los Angeles, si t'es pas nécessairement sûr de ton coup, tu veux pas nécessairement te lancer dans les gros dossiers, mais c'est là où tu es peut-être capable de retourner et dire « Je vais peut-être prendre une chance sur lui, ça va rien me coûter » ou « Ça va coûter un choix de 5 ou un choix de 7 » ou des considérations futures peut-être. Et c'est peut-être là où je regarde les Kings pour une équipe comme Patrick Laine, mais aussi... Je regarderai aussi du côté d'Evander Kane. Il y a une bonne relation entre Ken Holland et Evander Kane de leur temps à Edmonton.
Ouais, t'as mis la table un petit peu sur Washington. Moi, je veux revenir sur les Capitals parce que là, ils ont vendu Carlson, qui est un joueur de relocation, plus de contrat à la fin de l'année. Dowd a quitté. Est-ce qu'ils vont continuer de liquider des effectifs? Parce que quand je les regarde, il y a quand même des joueurs intéressants dans cette formation-là. Comment tu vois Washington? Est-ce qu'on reste là ou on a juste profité d'un marché un peu fou en décidant d'échanger Carlson?
Ouais, je pense qu'ils ont pris avantage. Puis en étant la situation des Capitals, les Capitals font une on va se le dire, là, un reset on the fly aussi. Eux autres, ils ont très bien repêché, donc ça l'aide beaucoup. Mais ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'ils ont pris avantage d'une situation. Tu ne peux pas te permettre de passer aujourd'hui à 15h sans avoir une prolongation de contrat de la part de Carlson et ne pas prendre avantage des prix pour les défenseurs droitiers en ce moment. Donc, je comprends entièrement la transaction. Et avec ceci dit, un œil sur Trevor Van Riemsdyk.
Ouais.
Selon moi, un autre agent libre en devenir 34 ans, beaucoup d'expérience. Encore une fois, on parle des échanges de profondeur. Ça, c'en est peut-être une pour un club qui se cherche un défenseur avec de l'expérience qui shoot de la droite.
OK, t'as parlé de Nazem Kadri. Il y avait beaucoup de rumeurs tout au long de la semaine qu'on parlait d'une potentielle réunion avec le Colorado. Je pense qu'avec l'acquisition de Nicolas Roy hier, ça met un petit peu un hic sur ce scénario-là. Ça me surprendrait que ça arrive finalement.
Ouais, mais c'est parce que la transaction Nicolas Roy a eu lieu à cause qu'il y a une transaction avortée du côté de Nazem Kadri. Aussi simple que ça.
OK.
Il y avait une transaction sur place qui incluait au moins un choix de premier tour. Il y avait une entente pour une rétention de salaire du côté de Kadri, mais malheureusement, l'équipe de propriétaires des Flames n'ont aucun intérêt pour l'instant à retenir du salaire sur Nazem Kadri. Ils veulent qu'il soit échangé au salaire complet de 7 millions de dollars pour les trois prochaines saisons après celle-ci. Pour Colorado, c'était trop. Bien sûr, ils ne voulaient pas prendre tout le salaire. Ils ont le contrat, ou le futur contrat, la prolongation de contrat de Cale Makar en tête. Donc, ils ne veulent pas s'avancer pour des années pour un joueur qui risque de devenir le troisième centre dans un an ou deux ou trois.
Ouais, c'est pour ça qu'ils n'ont pas signé Rantanen. Ce serait bien fou qu'ils donnent 7 millions complets à Kadri.
Ben oui.
Ouais, mais ils ont quand même donné quasiment 12 ou 12 à Nietzsche. Donc, c'est l'équilibre. Mais tu veux pas, spécialement après avoir donné 7,5 millions de dollars à un autre centre dans leur club qui s'appelle Brock Nelson, tu peux pas te permettre d'avoir trois centres qui gagnent 7 millions ou plus en ce moment quand tu as un défenseur qui va en gagner peut-être 18 l'année prochaine ou dans deux ans. Donc, ils font attention. Et c'est d'ailleurs pour ceci que la transaction a été avortée. Ils ont dit « OK, mais si vous n'êtes pas prêt à retenir du salaire, on se retourne un bord. » Ils sont allés chercher Nicolas Roy pour un choix de premier tour et un choix conditionnel.
Payé, ça. Donc,
bon retour. Ça
bien payé. Très bien payé.
Écoute, pour moi, j'ai été très content pour les Leafs. Je sais que ça va en fâcher une couple, là, mais très content pour les Leafs en termes de ce retour-là pour Nicolas Roy. C'est un joueur honnête. Je l'aime beaucoup, mais ça démontre à quel point le marché des centres et des défenseurs droitiers en ce moment est absolument fou.
Mais hein, puis tu sais, ça fait un peu moins paraître les Leafs mal avec la transaction Marner, mais deux, c'est Tony qui le disait un peu plus tôt à l'émission. Toute proportion gardée, Kent Hughes a ramassé Philippe Dano pour un choix de deuxième tour il y a deux mois. Là.
Ça paraît très bien.
Fait que deux mois de plus du joueur acquis pour un prix moins cher. Je comprends qu'il est plus vieux que Roy, mais quand même. Là.
Puis on disait aussi le choix de deux allait être un choix de deuxième tour très tôt. Puis c'était vrai dans le moment. Mais là, regarde où ce que les Blue Jackets de Columbus sont juste derrière le Canadien de Montréal. Donc,
bon point.
Pas nécessairement plus un choix de deux très tôt. Ça va être milieu de peloton si ça continue. Sinon, même plus haut que la moitié du deuxième tour. Philippe Dano, j'ai aucun problème avec cette transaction-là pour deux raisons. Un, il est signé pour l'année prochaine. Mm-hmm. Et le monde va dire « Ah, il est surpayé ». Absolument. Absolument. Je vais être le premier à le dire. Pour le rôle qu'il joue, il est surpayé, absolument. Mais c'est à cause qu'il est surpayé que tu l'as eu pour juste un choix de deux.
Ouais, en tout cas, il fait tout un job présentement avec le
Canadien.
Parce que
tous les autres clubs de la Ligue nationale qui étaient intéressés à lui, là, il y en avait deux ou trois, voulaient tous refiler du salaire à Los Angeles ou leur demander de retenir. Et le prix était plus élevé en conséquence. Donc, c'est pour ça que le Canadien l'a eu pour juste un deux. Et écoute, pour moi, il y a 10 points à ses 20 dernières games. 58% de les mises au jeu. Peut-être qu'il est mal utilisé? Est-ce que c'est la bonne combinaison pour son trio? Peut-être pas. Mais je pense que si et une fois rendu en série, Philippe Dano va en démontrer ça.
On va l'apprécier énormément en playoffs.
Assurément. OK, t'as parlé de transactions avortées. Celle de Parayko vers les Sabres tombée à l'eau. Il a décidé de maintenir sa clause. C'est son droit, puis c'est bien correct. La question que j'ai pour toi, c'est est-ce que Doug Armstrong est obligé de l'échanger 10-15 heures pour éviter d'avoir une popée patate chaude? Puis s'il l'échange, y a-tu des chances que le prix baisse justement parce qu'il est coincé?
Écoute, moi, personnellement, là, quand tu as des situations comme ça où une transaction sort avant même que le joueur soit capable d'approuver ou non, D'habitude, ça vient du club, ça, pour mettre un peu de pression sur le joueur. C'est très rare que ça sorte du joueur, parce que lui était sur le choc.
Ouais, puis ça fait aucun sens, ça.
Puis exactement. Puis écoute, c'est ça le problème dans cette ligue. Vous voulez en donner des clauses de non-échange, bien, vivez avec les conséquences. Puis si ça fait mal à ton retour, ben voilà la situation. Tu sais, durant l'ère du cap salarial où c'était plat, on utilisait les clauses de non-échange pour peut-être négocier un salaire inférieur parce qu'on donnait ce privilège-là. Bien là, ça, c'est plus le cas. Le cap est en train de monter de 9 millions par année en ce moment. Donc, j'espère que les DG vont prendre des notes parce que là, c'est deux transactions avortées du côté des Blues à cause de clauses dans les deux dernières années et ça les a fait très mal. Avec Parayko, il veut rester dans l'Ouest. C'est sa préférence selon ce qu'on souligne en ce moment. Mais les clubs avec qui il serait intéressé, Anaheim en était un puis ils viennent de faire leur move pour John Carlson. T'sais, Los Angeles, est-ce que je les vois aller pour un autre défenseur droitier vieillissant avec Drew Doughty qui est là en âge pis, et tout? Je sais pas. Je serais surpris parce que tu as Brent Clark qui est là et qui lui commence à vraiment prendre son envolée. Ça serait contrepartie. Et ça coûterait très cher des atouts que je crois que les Kings aimeraient plutôt utiliser à l'attaque qu'en défense.
Puis ils n'ont plus grand-chose à donner, anyway. Là. Ils ont donné Green Tree puis un premier choix pour Panarin. Il leur reste Carter George, là, mais sérieux.
Ils n'ont pas donné de premier choix pour Panarin. Puis c'est ça qui était très intéressant. Leur choix de premier tour de 2026 est encore sur la table. Ils ont acquis deux autres choix de deuxième tour dans les transactions Dano et Fogle. Ils ont de la munition pour faire quelque chose s'ils veulent, mais je doute qu'ils vont donner un espoir de premier plan comme Buffalo. Et je doute que Saint-Louis peut s'attendre à un tel retour qu'ils ont eu de Buffalo. Tout le monde les voit venir en ce moment. Donc, ça les a fait très mal au marché. Et malheureusement, le fait que les Blues ont été très gourmands, selon moi, va probablement les coûter. Là, je serais surpris si les choses continuent comme telles, que Robert Thomas soit disponible, soit échangé. Mm-hmm. Parce que là, ce qu'on commence à entendre, c'est que les DG se disent, ben là, il risque d'avoir d'autres bons joueurs disponibles cet été, spécialement au centre. On commence à parler de certains noms qui pourraient être disponibles, qui sont à la même hauteur que Robert Thomas, sinon, selon certains, meilleurs. Donc, il y a certains clubs qui commencent à dire, ben écoute, si tu veux être gourmand parce que tu veux prendre avantage de la situation maintenant, nous autres, on n'est pas pressés, on peut attendre à l'été. Comme une équipe comme le Canadien de Montréal va dire quelque chose comme ça en attendant de voir si les Blues de Saint-Louis vont réduire leur prix.
Ah, merci d'avoir corrigé. Excuse-moi, j'étais complètement dans la lune. Green Tree est un choix conditionnel, le troisième et le quatrième tour pour Panarin.
C'est ça.
Mon erreur. Il y a quand même une couple d'équipes qui sont assez tranquilles. On attend peut-être que les prix descendent, mais le Lightning, les Hurricanes, et à la limite les Pingouins, les Red Wings ont été chercher David Perron.
Ouais, mais les Red Wings sont probablement l'équipe qui sont le plus jumpy en ce moment. C'est le club qui veut faire quelque chose. La Caroline est là aussi à surveiller dans le marché des gardiens de but, la Caroline. Mais Détroit est le club qui est dans le dossier de Vinny Trocheck, qui surveille le marché des centres et qui est encore à la recherche d'un défenseur droitier de top 4 parce que, on le sait, la transaction a échoué avec Tyler Myers. Il a décidé de retourner chez eux au Texas. Donc, Détroit est un club à surveiller parce que ça, c'est un club qui a démontré ses couleurs sur le marché, selon mes sources, très tôt qu'il voulait être acheteur. Mais là, tout semble en attente et c'est ça qui va être très intéressant. Qui va step up pour Vinny Trocheck, parce que de toute semblance, il va bouger aujourd'hui. Tu ne le sors pas de l'alignement hier sans avoir sans être proche à une transaction.
Bien sûr.
Donc, à surveiller le Minnesota, la Caroline et aussi Détroit dans ce dossier-là. Mais Détroit, pour moi, est un club à surveiller. Ils veulent être agressifs. Et la même chose pour Utah. Ils ont déjà fait la transaction Mackenzie Weegar. Ils veulent ajouter un morceau dans le top 6 pour donner un peu plus de poussée à leur club et des bonbons à leurs partisans pour vraiment boucler la boucle sur leur relocation.
Ouais, puis c'est pas comme s'il manquait d'actifs à donner, là. On a des munitions en masse du côté du Mammouth.
Non, et spécialement les Blues gourmands, très gourmands, demandés. On en a parlé, Anthony et moi, dans le dernier épisode de Processus. La disponibilité ou non disponibilité de Caleb Desnoyers, c'est ce que visent présentement les Blues. Caleb Desnoyers plus pour Robert Thomas. Je serais très surpris si Utah y va avec le plus.
OK, mais tu sais, on a quand même TJ Ginla, Dimitri Simachev, Cole Beaudoin, Daniel Butt, tu sais, ils ont repêché en masse dans les dernières années les Coyotes. Fait que,
absolument.
Tu sais, les Coyotes, le mammouth, là.
Je doute fortement que les Blues vont centrer une transaction autour de Robert Thomas pour un allié.
OK.
Ils en ont des alliés.
Peux-tu me dire un joueur, un Black Aces, là, un joueur qui sortirait un peu de nulle part, qui pourrait bouger aujourd'hui selon toi?
Pourrait bouger aujourd'hui.
Pas nécessairement un gros gars d'impact, là, Tony.
Non, juste quelqu'un. On entend toujours les mêmes suspects qui circulent sur Twitter, mais y a-tu quelqu'un qui passe un peu sous le radar qui pourrait être. Tu sais, comme Warren Fogel, moi, j'avais pas vu ça venir hier. Ça m'a surpris.
Ouais, non. Ça fait longtemps qu'il essaie de l'échanger. J'étais surpris que ça l'ait pris autant de temps, là, mais
deuxième tour, ça.
C'est ça, quand t'attends un retour comme ça, je comprends pourquoi ils ont attendu.
Exact.
Mais. C'est
pas grave,
moi, je regarde beaucoup du côté de Zach Whitecloud. On aime dire à Calgary que les joueurs ne sont pas disponibles. Comme Mackenzie Weegar n'était pas disponible et c'est le premier à partir de Calgary, tu sais, pour des 3 choix de 2. Quand même une bonne valeur, mais intéressant de voir que c'est lui le premier à partir avec une clause. Mais Whitecloud, pour moi, est un joueur très intéressant. Le Canadien est intéressé à ce genre de joueur-là. Donc, ça va être. J'aimerais suivre ce dossier-là de la journée, mais Nick Perbix, pour moi.
Intéressant. C'est un gars que j'aime, Nashville, moi, personnellement.
Moi aussi, je l'ai aimé avec Tampa Bay.
Ouais.
Je l'aime encore cette saison avec Nashville. Je pense que c'est un défenseur droitier honnête, physique, capable de jouer sur une troisième paire.
C'est ça.
A de l'expérience de jouer avec des gros joueurs sur une deuxième paire. On l'a vu jouer plusieurs fois avec Victor Hedman à Tampa Bay. Ça, c'est un joueur à surveiller parce que Nashville, selon ce qu'on me dit, ils vont pas dropper une bombe nucléaire dans le noyau de l'équipe nécessairement, mais les joueurs de périphérie, les Eric Halla, Nick Perbix, ne sont pas à l'abri d'un échange.
Hey, Perbix, c'est 27 ans, c'est 2,75, encore une autre année, c'est un défenseur droitier.
Gros bonhomme.
Puis à Tempo, il était excellent. Il était vraiment dans l'ombre de Victor Hedman, mais il était excellent.
Perbix, c'est
pour aider le Canadien, lui.
Ben, assurément.
Moi, j'avais soulevé son nom, moi, cet été, pour une cible potentielle comme signature de joueur autonome. Souviens-toi des autres,
on travaillait ensemble.
Puis bon, son contrat court terme le rend encore attrayant à mes yeux, Perbix. Je sais pas ce que t'en penses, Marco.
Le fait qu'il ait signé pour l'année prochaine, qu'est-ce qui le rend. C'est comme, oui, c'est le profil, mais ça serait une transaction hockey. C'est pas un joueur de location. Selon ce que j'entends, le Canadien n'a pas nécessairement un gros intérêt pour les joueurs de location.
Non.
Il avait un intérêt, exemple, pour Connor Murphy, mais ils n'étaient pas prêts à payer un choix de 2 pour un joueur de location. Vous voyez? Donc, ils seraient plus prêts à payer quelque chose parce qu'ils vont avoir un actif qui vont leur permettre une flexibilité cette année et l'année prochaine. S'ils font l'acquisition de Perbix, ça leur permet aussi de regarder et de dire, on peut-tu prendre avantage d'un marché pour un Struble, un Jacky, un Carrier pour essayer de s'améliorer outre part? C'est ce genre de vision-là qu'ils ont. Donc, je m'attends à ce que s'ils font une transaction pour un défenseur, ça va être un défenseur qui va être contrôlé, pas juste un défenseur de location.
OK, intéressant. En plus, il y a déjà évidemment un lien là, entre Barry Trotz et Kent Hughes, là, la transaction avec Carrier, tout le monde se souvient. Très bon, Marco, tu vas avoir une grosse journée devant toi.
Ça coche.
J'espère que tu as bien dormi. Ouais. On va te rentendre régulièrement sur la programmation. C'est normal parce que ça va bouger puis tu es informé pas mal. Fait qu'on est content de t'avoir.
Ah, mais c'est toujours un plaisir d'être là avec vous autres. Puis écoute, quand Gilbert Delorme dit que t'es un bon informateur, ben ça fait ta journée.
Exact.
C'est bon. Salut Marco. Bye-bye.
Salut Marco.
Bonne journée. Une excellente journée tout le monde.
Okay. Bonne journée.
Bye-bye. Marco D'Amico, vous allez réentendre aujourd'hui régulièrement sur la programmation de BPM Sport parce qu'il connaît ses affaires. Puis moi, j'aime bien ça, le nom de Nick Perbix.
Ça a sorti de nulle part. Là.
Mais c'est ça, je voulais avoir un gars qui sort un peu de nulle part. Puis ça
lui,
c'est un
bon défenseur droitier. Là.
Ouais. Il coche toutes les cases, Gilbert. Gros bonhomme, en cause du contrat, jeune, droitier, capable d'être physique, bouche à rondelle. Très intéressant. OK, ça, c'était Marco D'Amico.
Juste avant, je veux souligner puis remercier les gens qui sont là en très grand nombre sur YouTube aujourd'hui. On vient d'atteindre plus de 3500 spectateurs pendant la chronique à Marco. J'avais challengé les gens tantôt sur la messagerie en disant « Hey, ce serait le fun d'atteindre 3500. Check, c'est réussi. Merci à votre fidélité. » Il y a plusieurs options ce matin de regarder la télé, mais vous avez choisi BPM Sport pour vous renseigner. On l'apprécie énormément. Merci d'être avec nous autres.
Mais ça, qu'on l'apprécie. OK, on va aller à la pause de l'autre côté. Il y avait quelques matchs hier dans la Ligue nationale de hockey. On fait le tour de tout ça dans 2 minutes. Et peut-être qu'il va y avoir une suspension à un joueur vedette à la suite de ce qui s'est passé.
Ça, j'ai hâte de voir.